Aujourd'hui, nous voyons, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. C'est ce qui est dans le credo confessé par Nicée. Voilà. C'est la formule la plus grande qui nous donne beaucoup de choses sur Dieu le Père. Et nous verrons, comme nous allons parler de la création, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, on va parler aussi de ce rapport entre la foi et, j'allais dire, à comment nous abordons la création avec la science. Voilà. Je ne fais pas une conférence de scientifiques, ni une apologie de la foi avec, contre ou pour la science, mais simplement un regard chrétien sur la science. Voilà. Tout d'abord, je crois en Dieu. Quand l'Église nous invite à proclamer le credo, je crois, c'est un acte personnel. Chacun est libre de poser un acte de foi. C'est un acte personnel. Ceci dit, c'est un acte toujours communautaire. Parce qu'on ne croit pas au hasard, on croit sur un objet précis qui est la foi donnée par l'Église, qui nous rattache avec les autres. Et l'Église nous dit cela dans son catéchisme. Nul ne peut croire seul, comme nul ne peut vivre seul. Nul ne sait donner la foi à lui-même, comme nul ne sait donner la vie à lui-même. Quand on dit « je crois », c'est toujours dans la foi de l'Église. Mon adhésion à Dieu ne peut se faire que parce que j'ai reçu la foi par l'Église et que je la professe dans l'Église. Je crois en Dieu, c'est à la fois personnel et toujours ecclésial. C'est un « je crois » dans un « nous croyons ». Et c'est un « nous croyons » qui m'a permis de dire « je crois ». Donc vous voyez, les deux sont liés. La foi, le credo, qu'est-ce que ça nous fait? À quoi ça nous aide profondément? Se rappeler peut-être l'objectif. Dans le rituel du baptême, quand le ministre du baptême, le diacre ou le prêtre, demande aux catéchumènes « que demandez-vous à l'Église de Dieu ?» La personne répond « la foi ». Et la deuxième question, c'est « que donne la foi ?» La vie éternelle. Et donc, nous voyons que tout le credo, ça commence d'un « je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant » et ça finit par la vie éternelle. Donc, voilà le but. Et Jésus dira dans l'évangile de Saint Jean, « la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu et celui que tu as envoyé. » Donc, ils te connaissent le Père dans l'Esprit Saint et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Donc, vous voyez, la connaissance de Dieu nous amène à la vie éternelle. Je crois, voilà, en Dieu. Je crois en Dieu, c'est le Dieu unique. Nous croyons à l'unicité de Dieu. Dieu est un. Il n'y a pas d'autre Dieu. Nous pouvons faire nôtre tout ce qu'a dit Israël, tout ce qui a été révélé par Dieu à Israël. Écoute, Israël, le Seigneur Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et dans un psaume, le Seigneur nous redit, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Donc, quand nous disons « je crois en Dieu », nous professons que Dieu est l'unique. Il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu qui s'est révélé dans l'Écriture sainte, dans l'histoire d'Israël. Ce Dieu, on n'a pas proclamé son nom au départ. Il a dit de manière, il s'est révélé par rapport à l'histoire des hommes croyants. Quand Moïse lui dit « Mais tu es qui ?» Dieu lui répond « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » La première description de Dieu, c'est que la définition de son nom, c'est qu'il est un Dieu qui s'inscrit dans l'histoire des hommes, dans la famille, de transmission en transmission. Donc en gros, son nom, c'est d'abord le fait qu'il s'inscrit dans l'histoire. Dieu ne répond pas, mais montre qu'on peut avoir confiance en lui parce qu'il s'inscrit dans l'histoire. Et puis dans l'Exode, au chapitre 3, Moïse veut en savoir encore un peu plus et lui dit « Tu veux m'envoyer vers les Égyptiens pour qu'on libère ton peuple ?» mais qui, qu'est-ce que je dirai, qui m'envoie? Et Dieu répond, tu diras que je suis t'a envoyé, je suis celui qui suis. Alors, les commentateurs de l'Écriture nous font dire que, en hébreu, c'est, la traduction c'est « je suis celui qui sera ». Ça veut dire « c'est celui qui accompagne toujours », celui qui fait alliance. Et comme Dieu s'est présenté comme le Dieu d'Abraham, de Moïse, de Jacob et d'Isaac, ça veut dire le Dieu qui s'inscrit dans l'histoire et en même temps le Dieu qui sera toujours accompagnant. Voilà la première connaissance de Dieu, son nom, le Dieu unique. Et pourtant aussi, dans la tradition de l'Église, on va creuser ce mystère du « je suis » et on va comprendre que « je suis », quand Dieu dit ça, il dit qu'il est la source de l'existence. « Je suis celui qui suis, je suis celui qui est ». Sous-entendu, nous les hommes, toute la création, on n'est pas celui qui est. On a reçu l'existence par un autre. Aucun être humain ne peut créer de l'existence à partir de rien. Mais Dieu, oui, il est celui qui est. Il crée à partir de rien et il est la plénitude de l'existence. Il est la source de toute l'existence. Je suis celui qui est. Donc ça montre, Dieu ne donne pas son nom d'abord, mais il montre, pour le nommer, il montre qui il est. Fondamentalement, il est la source de toute origine, de toute existence. Et il a fait un chemin avec l'homme à travers l'histoire sainte, la révélation, Abraham, Isaac, Jacob, et pour le futur, je suis celui qui sera. Voilà. Et on ne mettait pas le nom de Dieu, on ne proclamait pas le nom de Dieu dans l'Ancien Testament par respect pour Dieu. On ne met pas la main sur Dieu. Quand on dit Yahvé, c'est que les Juifs ont simplement écrit des consonnes, consonnes que vous retrouvez dans l'oratoire de la Transfiguration, elles sont en haut de la fresque. C'est écrit en hébreu, ça veut dire Yahvé. Mais on ne met pas les voyelles, parce qu'on ne prononce pas le nom de Dieu. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu. Parce que prononcer le nom de quelque chose, c'est mettre la main sur quelque chose. Je peux mettre la main sur livre, je peux mettre la main sur téléphone, sur stylo, mais Dieu non. Donc je ne prononce pas le nom de Dieu. Et pourtant, avec le temps, Israël va découvrir que Dieu est Père. Dieu est Père, et nous dit l'Église, Israël découvre que Dieu est Père parce que, comme dans le psaume 68, Dieu est Père des pauvres. Il protège la veuve et l'orphelin. Dieu est Père parce qu'il est fidèle dans son alliance. Dieu est Père. Mais ultimement, nous allons découvrir que c'est en Jésus-Christ que nous pourrons dire le nom de Dieu comme Père, Fils et Saint-Esprit, et aujourd'hui comme Père. D'ailleurs, l'évangile de Saint Jean, à la fin du prologue, chapitre 1, verset 18, nous dira « Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, dans son amitié, c'est lui qui nous l'a fait connaître. » Donc la connaissance ultime du Père est donnée par Jésus-Christ, et nous pouvons dire Dieu Père au sens fort en Jésus-Christ. Je crois personnellement et dans l'Église qui m'a donné la foi, qui m'a transmis le credo, ce que je dois croire, ce que je suis invité à croire, ce qu'on appelle le dépôt de la foi. Je crois en Dieu, le Dieu unique qui s'est révélé à Israël et qui s'est révélé complètement en Jésus-Christ. C'est ce même Dieu, le Dieu unique. Je crois en Dieu, le Père, on va y revenir, créateur du ciel et de la terre. Dieu est créateur. C'est une nouveauté parce qu'avant l'histoire biblique, on ne disait pas qu'il y avait une création au sens où on va l'entendre chez les Juifs. La création au sens où on l'entend chez les Juifs et chez les chrétiens, c'est le fait que Dieu crée à partir de rien. Avant, il n'y a rien et Dieu crée. Dans certaines conceptions philosophiques religieuses, on a pensé l'éternité du monde. Mais la foi juive et judéo-chrétienne nous dit que Dieu a créé l'univers à partir de rien. Il a créé toute la matière. Si nous disons ça, nous disons aussi que Dieu n'est pas et distinct de la création, c'est-à-dire qu'il n'est pas, il n'y a pas de confusion entre Dieu et sa création, à la différence de conception plutôt orientale, où nous pourrions dire nous sommes un tout de Dieu. L'atome, le moustique, moi-même, le nuage font partie du grand cosmos et nous sommes un tout de Dieu. Ce n'est pas la conception juive ni chrétienne. Dieu crée, mais Dieu est différent de sa création. Il existe avant sa création. Et il est dépendant, il est en indépendance vis-à-vis de sa création. Il est libre ou pas de créer. Ce qui est important aussi de dire, c'est que si Dieu crée, et nous allons le voir, même si nous disons « je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur », c'est toute la Trinité qui crée, et pas que le Père. Et on peut, si j'ai cité tout à l'heure un verset biblique, c'était fait exprès, « Dieu le Père crée en Jésus-Christ dans l'Esprit-Saint ». Je m'explique, le Père désire créer, et il crée. Et Jésus nous dit qu'il est toujours à l'œuvre, confère Jean 5, « Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi. » Donc le Père continue à créer. Mais nous disons aussi « Viens Esprit Créateur ». Et nous disons aussi « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu, par lui tout s'est fait. » Le Verbe, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus, donc par lui tout s'est fait. Donc les trois sont créateurs. Jésus est créateur, l'Esprit Saint qui plane au-dessus des eaux dans la Genèse est créateur, et le Père est créateur. La création est une œuvre de la Trinité. Si nous disons cela aussi, que Dieu est créateur, c'est que rien n'est fait au hasard. Si nous disons qu'il y a de la création, donc ça a été voulu, donc ça a été pensé, donc c'est fait avec une intelligence, et donc c'est fait aussi avec une utilité et une finalité. Les choses existent dans un but. Donc il y a un ordre des choses, il y a un sens de la création. Donc il y a un sens de comment fonctionne l'homme, de comment fonctionne la femme, de comment fonctionne la famille, de comment fonctionnent les animaux, de comment fonctionne la nature. C'est ce que nous appelons, en morale, la loi naturelle. La création nous aide à comprendre ce pourquoi est fait l'homme, ce pourquoi est fait la création. Il y a une finalité, parce que c'est pensé, parce que c'est voulu, parce que c'est créé. Ce n'est pas Dieu qui a sorti la création de sa poche comme de la poussière dans sa poche, c'est tombé par terre, au hasard ça fait quelque chose, et oh ben zut, ça fait quelque chose, on va le laisser comme ça. Non, ça a été pensé. Ça a été pensé profondément en Jésus, parce qu'il est l'intelligence. Ça a été aimé dans l'Esprit Saint, parce que c'est la personne amour. Donc quand Dieu crée, il crée dans l'intelligence et dans l'amour. Donc la création n'est pas le fruit du hasard, mais de la sagesse et de l'amour, nous dit, donc de l'intelligence et de l'amour, nous dit le psaume 145, verset 9. Les choses ont un sens, une finalité, une direction, nous redit l'Apocalypse, chapitre 4, verset 11. Donc Dieu est créateur. Je crois en Dieu, créateur. Je crois en Dieu, le Père. On va approfondir ça. Si nous avons dit que Israël découvre le Dieu unique, petit à petit, comme un père qui est fidèle dans son alliance, qui prend soin de la veuve et de l'orphelin, qui aime d'un amour jaloux, la paternité de Dieu n'est pas une paternité à la manière humaine. Les anges ne sont pas hommes et femmes. Dieu n'est pas homme et femme. Quand on dit qu'il est père, on ne dit pas qu'il est père à la manière humaine. Mais on dit plutôt que toute paternité découle de la paternité de Dieu. Et c'est ce que dira saint Paul, excusez-moi, je ne sais plus le verset exact, « Je plie le genou devant le Père de qui vient toute paternité. » Donc la paternité de Dieu est le modèle de notre paternité et de la maternité. L'Écriture dit aussi que Dieu est Père et qu'il aime avec un cœur de mère. On voit ça dans les psaumes, on voit ça dans différents livres bibliques. Il aime avec les entrailles d'une mère. La miséricorde, c'est aimer dans les entrailles. Et donc, on peut même reprendre l'image de Rembrandt, où on voit qu'il y a une main gauche plus trapue et une main droite plus fine. Dieu aime à la fois d'un cœur de père et d'un cœur de mère. Il aime à la fois d'une manière juste et à la fois d'une manière miséricordieuse. Et pourtant, Dieu est père. Et nous ne dirons pas au sens fort « Dieu est mère ». Pourquoi nous disons qu'il est père ? Profondément, c'est parce que quand la révélation nous a donné Dieu comme père, la révélation a voulu affirmer, Dieu a voulu affirmer sa transcendance. Parce que il existait, et il peut encore exister encore, des conceptions où quelque part, Dieu, c'est le cosmos, c'est la terre, c'est la déesse Gaïa. En gros, tout serait engendré par le cosmos. Or, Dieu est différent du cosmos. Il est transcendant. Il est père. Il y a une distance, voyez. Et cette distanciation s'exprime mieux dans le fait que Dieu est père. Voilà. Mais ça, vous voyez, c'est très différent de rapport homme-femme, mais c'est pour montrer la transcendance. Et toute paternité et maternité s'enrigine dans le fait que Dieu soit Père. Ultimement, qui nous révèle Dieu comme Père ? Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ va nous insérer dans l'intimité du Père, dans les entrailles du Père. Jésus-Christ va nous faire entrer dans la Trinité. Ça veut dire que quand on dit dans Jean 1, 18, le Fils unique qui était dans le sein du Père, c'est dans l'intimité du Père. Le Fils unique qui est dans son cœur. Ce qui fait que nous allons connaître de l'intérieur qui est le Père. La connaissance de Dieu va devenir plus forte, plus intime, plus totale. Et donc nous pouvons à ce moment-là nommer Dieu Père. Et nous pouvons reprendre ce que nous avons entendu dans l'Épître aux Romains chapitre 8. L'Esprit nous fait crier « Abba Père ». Ça veut dire « mon petit papa chéri ». C'est une connaissance filiale avec Dieu qui nous fait rentrer dans la Trinité et non pas rester à l'extérieur, nous fait rentrer dans la Trinité par le Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père, tout-puissant. Alors Dieu est tout-puissant et ça veut dire beaucoup de choses. Dieu est tout-puissant, ça veut dire que Dieu n'est limité par rien. Dieu n'est limité par rien. On l'a à nouveau dans Luc chapitre 1, quand l'ange dit à Marie « Rien n'est impossible à Dieu ». Donc, Dieu n'est limité par rien. C'est lui qui crée, mais limité par rien. Il est tout-puissant. Si nous disons aussi qu'il est tout-puissant, nous disons qu'il est le maître de l'histoire. Ça veut dire qu'Israël a fait l'expérience que Dieu guidait son peuple, mais son peuple pouvait errer dans l'idolâtrie, dans l'infidélité, et que son peuple aussi pouvait être touché par la déportation, par la persécution jusqu'au XXe siècle. Donc, il est tout-puissant, il maîtrise la vie, et pourtant, il permet le mal et que l'homme erre. Et pourtant, il maîtrise l'histoire de l'homme. On va voir ça. Pareil pour nous. Dieu est Père, tout-puissant, il maîtrise la destinée humaine, le cheminement de l'Église et de tous les hommes, et pourtant il laisse la liberté. C'est parce que la toute-puissance de Dieu n'est pas limitée par la liberté humaine. Au contraire, Dieu est tout-puissant et encore plus tout-puissant tout en laissant l'homme libre. Ça veut dire qu'il intègre même la liberté de l'homme. Ça ne limite pas la toute-puissance de Dieu. Il y a une pleine liberté de l'homme, mais il y a une très grande pleine liberté de Dieu qui maîtrise le commencement de l'histoire, c'est lui qui a généré, qui a engendré la création, et qui aussi lui donnera une fin en temps voulu, un aboutissement. En gros, il tient dans ses mains toute l'histoire humaine, et pas que le cosmos. Je reviens en arrière. Si nous disons que Dieu est créateur, il continue à créer, et nous le verrons dans la deuxième partie, il continue à créer de plein de manières, dans le cœur des hommes, en conduisant l'Église et chaque croyant, mais certainement aussi dans la création. On dit qu'il y a des espèces de papillons, des choses comme ça qui sont nouvelles. Donc Dieu crée. Et en même temps, Il maintient la création. Si Dieu se retirait de la création, elle disparaîtrait. Parce qu'il n'y a rien dans ce qui est posé dans l'existence qui contient l'être, le fait d'exister. Nous existons, mais nous n'avons pas nous-mêmes notre capacité à exister. Nous l'avons reçue et Dieu nous l'a donnée, mais nous la perdons quand nous mourrons. Dieu maintient les choses dans l'être. Donc il a créé, il lui donne une finalité, il s'en occupe, il est maître de l'histoire et il la maintient dans l'être. Donc il est omniprésent. On pourrait dire c'est l'immanence de Dieu, c'est sa présence permanente dans la création. Et en même temps, on ne confond pas Dieu avec sa création, il est père, il est transcendant. Vous voyez, dans le christianisme, il y a bien une omniprésence de Dieu qui est présent dans chaque molécule, dans chaque être vivant, mais en même temps, il ne se confond pas, il est tout autre. Il est créateur. Il est père aussi, je voudrais rajouter ça. Ceux qui sont parents, vous savez qu'avant d'être parent, vous n'êtes pas parent. Avant d'avoir des enfants, vous n'êtes pas maman ni papa. Quand vous avez des enfants, vous êtes papa ou maman. Et puis quand ils grandissent, vous êtes papa et maman d'une autre manière. Ok. Et vous engendrez à un moment donné, et après vous engendrez plus. Vous engendrez éducativement, culturellement, mais ces différents actes du biologique, du spirituel, de l'éducatif, etc. On est d'accord. Dieu, c'est pas ça. Dieu, le Père, il est Père tout le temps et pour tout le temps. Il engendre tout le temps. Ça veut dire qu'il n'y a pas un début où il n'a pas engendré et il n'y a pas un début où il n'y a pas une fin où il arrêtera d'engendrer. Il engendre tout le temps. Jésus est tout le temps engendré. Jésus n'est pas une créature, mais il est tout le temps engendré. Je crois en un seul Seigneur, il est Dieu né de Dieu, lumière de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé. Il est tout le temps engendré. Depuis toujours, le Père engendre. Et quand, au baptême, on entend la voix, « Tu es mon Fils bien-aimé, aujourd'hui je t'ai engendré. » Non, pardon, c'est dans un psaume. « Je t'ai engendré. » Donc on voit que le Père engendre en permanence. Donc on ne peut pas, nous, imaginer une sorte d'accouchement permanent, on ne le penserait pas. Et on ne penserait pas aussi quelqu'un à l'âge adulte, pleinement Christ, pleinement Fils de Dieu éternel, et en même temps qui est sans arrêt dans le sein du Père. On dirait, mais non, il y a une régression, c'est pas possible. Mais en Dieu, c'est possible. Il y a une permanence d'engendrement qui donne la vie. Donc quand on dit les Pères, au sens fort, c'est pas qu'une fonction, c'est sa manière d'être. Nous, avant d'être Père, Mère, on est être humain. Lui, il est Père, c'est sa manière d'être. Donc il engendre. Donc c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Dieu est Père. Et il aime tout le temps d'un cœur de miséricorde. Tout le temps. Je crois en Dieu, le Père, tout-puissant, qui n'est limité par aucune contrainte, créateur du ciel et de la terre. Tout-puissant, on pourrait dire, oui, mais alors il est limité par ses lois naturelles. Il les a créées, la physique. Il a créé les atomes, les règles de gravité, les règles électriques. Il a créé les choses. Dieu a permis que ça existe. Donc ça existe et il s'en sert. Mais s'il, et généralement, il permet à sa création de se déployer tout en l'assistant, en la soutenant dans l'existence, elle se déploie librement avec les règles que lui-même a installées. Ben voilà, les molécules, ça fonctionne comme ça, la météo, ça fonctionne comme ça, on peut la dérégler, mais globalement, ça fonctionne comme ça, les planètes, ça tourne comme ça, etc. Dieu a créé les lois physiques. Et pourtant, comme il est tout-puissant, quand il veut, il peut les dépasser. C'est quoi un miracle ? C'est le dépassement des lois physiques. Dieu n'est pas lié à sa création. S'il veut, il peut la dépasser. Voilà. C'est pour ça qu'on nous dit, mais attendez, l'Eucharistie, c'est pas crédible. L'engendrement de Jésus dans le sein de Marie, c'est pas biologique. Mais Dieu est tout-puissant. Et comme il est tout-puissant, il n'est pas lié aux lois naturelles. Il les a mis en place parce qu'il pense que c'est bon, mais il est capable de les dépasser comme il veut, quand il veut, selon sa sagesse. Il est tout-puissant. Et ça relève de Dieu. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Dans la Bible, le ciel et la terre, ça veut dire la totalité. Il est créateur de tout, Dieu, du ciel et de la terre. Je me rappelle quelqu'un qui m'a dit « Oui, oui, je crois que Dieu est tout-puissant, mais le reste. » Ou alors « Dieu maîtrise tout, mais le reste. » Ça veut dire en sous-entendu, oui, Dieu est tout-puissant, il a créé les étoiles, le ciel. Bon, il s'en occupe, mais est-ce qu'il s'occupe de ma vie? Mais le reste. Et en fait, c'est très. Nous avons certainement été, comment dire, paralysés. Il y a plusieurs facteurs. Soit dans notre histoire, par un rapport au père ou à la mère qui n'a pas été bon, ce qui fait que nous avons du mal à découvrir la paternité de Dieu. Et donc, des fois, la paternité de Dieu va nous réconcilier avec nos parents. Mais aussi, nous avons du mal à découvrir la toute-puissance de Dieu parce que notre époque n'est plus une époque contemplative au sens naturel. C'est-à-dire, nous n'aimons pas la création comme l'aimaient les croyants dans le désert. Le monothéisme est né dans le désert parce qu'on voyait l'immensité de Dieu dans la création et que dans la création, on voyait sa toute-puissance. Et donc, souvent, dans notre grisaille de citadins, nous avons du mal à contempler la création, or il nous faut redécouvrir le Dieu créateur pour voir sa toute-puissance. Et quand nous voyons sa toute-puissance et son gouvernement dans les choses, on peut se dire, ben, s'il est capable de faire ça, il peut s'occuper de ma vie, quoi. Donc il est capable de tout et du reste. Voilà, tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, globalité. De l'univers, vit. Alors le ciel et la terre aussi, ça a un sens spirituel, la terre des hommes, et le ciel, le monde de Dieu. Dieu n'habite pas dans le ciel, nous le reverrons, notre Père qui est aux cieux. Dieu n'est pas au ciel caché derrière un nuage. Mais c'est une image pour nous parler aussi du lieu de Dieu. On va voir ça. Et on peut comprendre que les hommes se sont inspirés de la nature pour parler de Dieu. Quand on voit la beauté du ciel, les étoiles, le soleil, cette paix, cette immensité, on a pensé l'univers de la terre et du ciel comme le monde de Dieu. On retrouve ça dans nos églises où le point carré rectangulaire indique les quatre points cardinaux, le monde terrestre, et plutôt la coupole, c'est le cercle. Il y a une sorte d'unité, mais il n'y a pas d'angle. C'est comme le ciel, c'est sphérique, c'est le monde de Dieu. Donc on est passage de la terre au ciel. Et vous voyez dans les représentations, on monte. La verticalité nous montre qu'on monte vers le ciel. On a toujours représenté avec des images, on monte au ciel. Alors, par exemple, on a l'exaltation de la Vierge Marie, on a des nuages, elle monte au ciel. Voilà. Donc le ciel nous dit quelque chose du monde de Dieu, mais ce n'est pas caché derrière les nuages. De l'univers visible et invisible. À ne pas confondre l'univers que je vois avec mes yeux et l'univers que je ne vois pas avec mes yeux. Ça serait une réduction physique. Par exemple, les atomes, je ne les vois pas, ce n'est pas cet univers-là qu'on parle invisible. Les atomes, ou les micros, ce qu'il y a dans les atomes plus petits, etc., et récemment, on a fait des recherches là-dessus, on a trouvé plus petit encore, beaucoup plus petit. Tout ça, qu'on le voit à l'œil nu avec le microscope ou plus petit, c'est l'univers visible, c'est la matière. C'est la matière, l'univers visible. C'est toute la galaxie, tout le cosmos, c'est la matière. Et l'univers invisible, c'est le domaine des esprits. Dieu est créateur de l'univers, de la matière et de l'univers des esprits, parce que ces deux domaines sont des créations et que lui, il est antérieur à tout. De l'univers visible et invisible. Le domaine invisible, nous le croyons dans la foi. Nous pouvons parfois le soupçonner de sa présence. Le monde des défunts, le monde des saints, le monde angélique, démoniaque. Mais généralement, il nous est caché. Mais cet univers est très grand. Est immense. C'est peut-être la face, la partie dans l'eau de l'iceberg. Donc c'est énorme. Donc on n'imagine pas, on pourrait imaginer 10 secondes la merveille de la création de Dieu avec ce qui est invisible, qui est encore plus important que déjà les galaxies. Donc il s'occupe de nous s'il est capable de faire tout ça. Il peut s'occuper d'une petite vie. Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Dans cet univers invisible, vous avez les anges. Vous avez les démons, vous avez les saints, vous avez tous ceux qui montent au purgatoire et qui montent, voilà, les âmes des défunts. C'est immense. Avant que l'homme fût créé, les anges étaient créés. Les anges ne sont pas des hommes et des femmes, ce sont des créatures asexuées, purement spirituelles, qui réfléchissent d'une autre manière que nous. Nous nous réfléchissons avec du temps. J'ai besoin de temps pour parler. Des fois, j'en prends trop. Il me faut du temps pour faire une idée. L'ange, instantanément, il connaît. il comprend, il est pur esprit, il n'est pas lié par l'espace et le temps. Ça n'a rien à voir, il n'a pas de corps, et quand il apparaît avec un corps, c'est un semblant de corps pour que nous nous comprenions. Mais il n'est pas lié à un corps. Et il y a un certain nombre de catégories d'anges, la tradition en dénombre 9, principauté, trône, domination, vertu, chérubin, séraphin, ange, archange, etc. Puissance. Ces anges-là sont en présence de Dieu, chacun avec un rôle particulier, une catégorie particulière, et ils louent la gloire de Dieu. Et les séraphins sont les plus proches, on les représente sur les icônes cachés au niveau de leur visage et du corps, parce que la présence de Dieu est trop brûlante, est trop irradiante. Et donc il y a cette présence-là de l'univers invisible qui fait ça. Et les anges ont librement choisi Dieu. Ils ont été créés, mais librement ils ont adhéré à Dieu. Et certains non. Ils ont pu le faire en un acte immédiat, choisir ou pas Dieu. Et certains n'ont pas choisi Dieu, parce que peut-être ils ont voulu se prendre pour Dieu. Et un archange, dont le nom veut dire « qui est comme Dieu », Michael, s'est mis en lutte contre un autre archange, porte-lumière, qui est Lucifer, qui veut dire porte-lumière, qui a entraîné un certain nombre de chutes d'anges qui sont devenus des démons. Et cet univers des démons est réel. Il existe. Des fois, on le pressent, etc. Et donc, il y a un certain nombre d'êtres angéliques qui, avant même la création de l'homme, dans l'univers invisible, ont décidé d'être des démons. Et il y a mystérieusement un combat. Mais Dieu maintient dans l'existence les anges et les démons parce qu'il leur a donné d'exister, il leur a donné l'être. Et Dieu ne renie pas sa créature, il l'aime. Par contre, il a permis aux anges de venir à lui et il a accepté que des anges le refusent et qu'il y ait des démons. Voilà. Et nous pouvons prier pour la conversion des démons, ça ne sert à rien. De toujours à toujours, ils resteront démons. Et ça nous paraît étonnant, nous qui fonctionnons dans le temps, nous pouvons nous convertir, mais les démons ont choisi, les anges qui ont déchu ont choisi de leur propre liberté, en connaissance bien plus grande de cause que nous, puisqu'ils voyaient Dieu, de ne pas adhérer à Dieu. Ce qui nous paraît un mystère, mais ils l'ont refusé. Et Dieu ne leur a pas fermé les portes, mais c'est eux-mêmes qui se sont enfermés. Et le principe de l'enfer, c'est quoi? C'est justement de vivre sans la présence de Dieu, ce qui permet la liberté. Sinon, Dieu s'impose. Mais c'est une torture permanente parce que la personne, l'être spirituel qui vit ça, ou la personne humaine, en fait, elle a naturellement le désir de Dieu, mais intrinsèquement, au plus profond d'elle-même, elle l'a refusé. Donc elle est tendue vers et elle a dit non. Et pour l'éternité. C'est mystérieux. Et oui, c'est ça l'enfer. C'est plus que le barbecue avec le chaudron. C'est plus profondément. Mais c'est une réalité spirituelle. Voilà, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. On va s'arrêter là pour Dieu Créateur.